3 hommes X, la nouvelle émission LGBT sur Vibration Gay Radio.
Bienvenue à tous dans cette troisième émission Chromosome X de la saison avec Fanny. Salut Fanny.
Salut.
Ça va bien?
Bah bien.
Bah oui, on est en forme.
Froidement, mais bon, ça va.
Bah c'est la période en même temps, c'est normal. On est aussi avec Sam ce soir.
Hello, hello, bonsoir.
Et enfin aussi avec Paul.
Et bonsoir.
Parce qu'en fait, je vois Lionel, mais il se prépare, il est à l'autre bout, il n'a pas de micro encore. Tu peux nous faire un petit coucou quand même, Lionel?
Coucou.
Merci pour le coucou.
Génial, c'était magnifique.
Ouais. Une émission dans laquelle on va parler de Envie, un espace d'information et d'échange qui a été mis en place au début de cette année. Un espace mis en place à destination des hommes gays, bi et d'autres hommes ayant des rapports avec des hommes, ainsi que les personnes trans qui sont séropositifs, séropositives au VIH. Nous serons donc avec David, qui est secrétaire de Voguey, ainsi que Eric, coordinateur du projet Envie et animateur du groupe de parole. On parlera aussi des fêtes de fin d'année ou des vacances en couple. C'est juste, Fanny, hein?
Oui, c'est juste.
Oui, un grand sujet ça, parce que c'est pas toujours facile. Il faut faire comprendre quand on arrive dans un hôtel ou dans un restaurant que non, on n'est pas avec notre ami.
Non, voilà. Je veux pas une chambre à double lit, je veux un grand lit.
Voilà. Donc c'est une grande thématique, on va donc l'évoquer tout à l'heure dans cette émission. On pourra aussi échanger sur nos propres expériences. Paul qui ne baisse toujours pas les bras, il a toujours décidé de nous poser cette question, nous demander si nous sommes queer.
Toujours. Il est quand même persévérant ce Paul.
Ouais, je vais pas lâcher l'affaire.
C'est bien, c'est bien.
Non, là je vais parler d'un sujet qui parle à tout le monde en plus.
Ok.
Ouais, on va parler pornographie.
Ah bon,
ah, voilà.
Donc ça de manière générale.
On l'attendait celle-là.
On aura aussi l'occasion de parler cinéma avec Lionel. Depuis la rentrée, il nous fait découvrir un film qui l'a touché et qui vaut le détour. Ce sera donc l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà pour le programme, vous êtes prêts?
Oui, ouais, on y va alors.
On va se lancer comme ça, avec un peu de musique et on revient d'ici quelques instants. Et on aborde donc ce projet, on va donc découvrir ce projet qui s'appelle Envie. Ce sera d'ici quelques instants sur Vibration Gay Radio. Bienvenue à tous.
Just that
Vibration Gare Radio, c'était LP à l'instant avec Lost on You. Nous sommes dans cette émission Chromosome Mix, eh bien une fois par mois ensemble avec aujourd'hui des invités. Nous parlons du projet Envie, un projet qui a vu le jour au début de cette année au sein de l'association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre. Il s'agit donc de voguer en collaboration avec le Checkpoint de Profile puis le soutien de l'aide suisse contre le sida. On en parle avec notamment David qui est avec nous. Salut David.
Salut.
Ça va bien ?
Mais ça va très bien et toi ?
Merci de nous rejoindre ici à Alpaguet, dans les locaux d'Alpaguet, en Valais. Vous avez fait le déplacement.
On n'a pas peur d'accueillir des vaudoines.
Voilà, non, exactement. Nous sommes aussi avec Eric, qui est coordinateur du projet Envie et animateur du groupe de parole. Bonjour Eric.
Et bonjour.
Ça va bien ?
Ouais, ça va plutôt bien.
On est en forme.
150 km à fond la caisse pour être avec vous. Je suis là, tout va bien.
Très
bien.
Le dépaysement, ça va ?
Oui, ça va. J'ai le Grenoble, donc ça fait pas grand changement.
Alors, on va donc parler de ce groupe Envie. Et une première question, pourquoi la création d'un tel projet ? D'où, c'est quoi l'origine un petit peu de la création de ce projet ?
Alors, c'est pas tout récent. Hein. Envie est assez récent puisque c'est un groupe qui existe depuis une année à peu près, un peu moins d'une année. Mais le projet existe depuis plus longtemps et il n'a pas été simple de le monter. Déjà parce que, comme vous le savez, un projet est viable dans la mesure où on peut trouver un peu d'argent pour le faire vivre. Et puis pour obtenir cet argent, ça a pris du temps. Parce que vous le savez, les politiques ne sont pas très pressés ni vraiment très intéressés par ces questions-là. Ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément, c'est que avant, il existait un espace où on accueillait des personnes séropositives qui étaient organisées sous forme de séminaires deux fois par année dans le canton des Grisons, je crois, dans un hôtel très beau, etc. On réunissait autant de personnes suisse-allemandes que de personnes romandes et on organisait des ateliers sur une durée de deux ou trois jours. Et puis un jour, ça s'est arrêté parce qu'il y a une personne qui a écrit un article très déplaisant dans la presse locale. Je vous laisse deviner de quel pôle politique cette personne faisait partie. Et du coup, l'OFSP était un peu secoué. Il y a eu des changements et le projet s'est arrêté tout simplement. Mais évidemment qu'en s'arrêtant, les besoins, eux, ne se sont pas arrêtés, au contraire. Et puis, il n'existait à peu près, je dis à peu près, parce qu'il y avait quand même des choses, je pense au groupe SIDA Genève, mais en tout cas sur le canton de Vaud, et puis pour l'arc lémanique, il n'existait pas grand-chose, ce qui fait que les gens devaient aller à Genève, etc. C'était parfois un petit peu compliqué. Du coup, moi, je suis infirmier au Checkpoint, et avec mes collègues, avec mon responsable, on a dit on pourrait retravailler sur la création d'un espace, d'un projet autour de la séropositivité. Et puis, voilà, de fil en aiguille, le projet s'est créé et à l'époque s'appelait Queer Help. Help, mm-hmm. Au secours.
Un peu comme moi dans chaque émission.
Voilà.
Il y avait un peu cet esprit comme ça... Qui a changé, hein, avec David, on va vous expliquer tout ça tout à l'heure, mais où il y avait un besoin, il y avait des gens qui étaient dans la déprime, dans l'isolement, enfin dans toutes ces choses qu'on imagine par rapport à la séropositivité. Et puis, du coup, on a baptisé ce truc Queer Help. Et voilà, donc j'avais ce mandat-là qui correspond à quelques heures par semaine et je les utilisais à essayer de recruter des gens, à essayer de les localiser. J'en connaissais de par ma posture d'infirmier, de par le fait que je dépiste, j'annonce des résultats réactifs, etc. Mais j'étais souvent à mon téléphone, à prendre des rendez-vous, allez, viens boire un pot, on va discuter de tout ça, etc. Et c'est là que j'ai compris à quel point il y avait une invisibilité des personnes qui sont concernées, et pas toutes, évidemment, hein, puisque certaines en parlent aisément, etc. Mais beaucoup vivent justement dans l'invisibilité. Alors, j'avais l'impression parfois de m'adresser à des fantômes, et ces fantômes, je les sentais très intéressés par l'idée de ce projet, mais en même temps, avec une difficulté d'oser faire le pas, d'oser prendre le risque d'y participer en venant à une réunion, etc., etc. Alors, la rencontre avec moi, ça se passait toujours très très bien, je sentais l'enthousiasme, etc. Et puis après, au rendez-vous qui était prévu pour la réunion, il n'y avait personne, ça arrivait.
C'est difficile de faire le pas, en fait, pour ces gens ?
C'est difficile, oui, c'est difficile. Et puis, avec David, on en parlera. On va essayer de déplier tout ça. Mais ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on apparaît avec sa séropositivité, on prend le risque du rejet, on prend le risque de ne pas trouver de partenaire ou de compagnon, on prend le risque de perdre son job, à la rigueur, ou des choses comme ça qui sont juste épouvantables. Et il y a ces peurs qui sont encore actives. Alors, quand je dis ces peurs, j'ai envie de préciser, imaginaire ou réel. Imaginer ou réel, c'est peut-être vrai, mais pas toujours.
Mmh. On peut parler aussi du contexte. En ce moment, il y a l'avancée médicale. Ça veut dire que désormais, on peut baisser la charge, enfin, on baisse la charge virale jusqu'au seuil d'indétectabilité, comme tu l'as dit. J'ai alors, eu un petit oui.
Indétectabilité.
Ça, c'est refais-le.
Vous l'avez vu. J'ai très bien compris. Oui, et ça, c'est une nouvelle qui n'est finalement pas tellement récente, puisqu'elle date de 1991, si je ne dis pas de bêtises, avec l'arrivée des antirétroviraux.
C'était un petit peu plus tard quand même, hein, semble-t-il.
1998, voilà. On a commencé parler d'indétectabilité vers 2006.
Voilà, c'est ça. Merci pour la rectification. C'est quand même pas tout à fait récent, c'est quelque chose qu'on connaît depuis, quelques années. Mais par contre, alors parlons déjà du principe. Le fait de prendre des antirétroviraux, donc des médicaments qui vont agir dans un organisme humain pour lutter contre le VIH, ces médicaments vont réduire ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la virémie, la quantité de virus par millilitre de sang, tellement considérablement que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, la personne va atteindre un seuil qu'on appelle d'indétectabilité. Et en fait, c'est le professeur Hirschel, avec son équipe, il n'était pas tout seul, à l'hôpital universitaire de Genève, qui a écrit un article dans une revue spécialisée assez connue, en disant que les personnes concernées par le VIH, enfin les personnes touchées par le VIH, infectées par le VIH, ne transmettaient plus le VIH à leur partenaire lors de relations sexuelles, parce que justement cette charge virale était indétectable. Donc on était vraiment sur un zéro risque. Voilà. Mais cette idée, alors c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, cette idée a été rejetée, a été contestée, était absolument, comment dire, incompréhensible pour beaucoup de gens, parce que il y a encore des images, des souvenirs du VIH lorsqu'il tuait les gens, parlons franchement, avant l'apparition des antirétroviraux, lorsque le sida se déclarait, toutes ces images, toutes ces conceptions de l'infection étaient et sont encore actives aujourd'hui et font que les personnes séropositives sont perçues d'une manière qui ne correspond pas à leur réalité.
En même temps, on nous a tellement... à l'époque, quand j'étais gamin, jadis, en 90, on voyait justement... ils avaient sorti la BD Joe, oui, entre autres. Oui, il y avait vraiment tout un matraquage, en fait.
Dans les écoles.
Visuel et comment tu dis d'écoute.
De prévention.
De prévention et tout ça, comme quoi c'était vraiment... ça tue. Il faut faire attention, machin et tout ça. Puis on s'est fait, en fin de compte, au bout d'un moment, une image qui était totalement négative et qui nous faisait peur. Moi, je me rappelle.
Et puis qui était bien ancré en plus.
Qui était très ancré.
Qui était très
ancré. Et puis, moi, je me rappelle avoir eu peur de ça, vraiment. Donc, du coup, cette image est, comme tu le disais,
encore active.
Ouais. Et les gens ont de la peine à passer le cap, puisqu'il y a eu ce matraquage avant.
Des médias, et de tout. Vous souvenez de la pub Benetton, par exemple, où on voyait une famille au chevet de leur fils qui était en train de mourir du sida. Et moi, je me souviens très bien, on peut encore la trouver sur Internet, cette affiche.
Je me souviens plus.
Et elle a vraiment marqué la mémoire. Hein. On parlait de traces tout à l'heure avec toi. Ce sont des traces qui restent et qui sont encore actives et qui péjorent la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH.
Et donc, désormais, il y a une. Il y a toujours cette. On parle de sérophobie aussi. On parlait tout à l'heure donc de cette crainte. Et puis donc, c'est un petit peu. Il faut changer cette vision, c'est ça ?
C'est ça, ce paradigme, comme tu dis. Et alors, après, David va en parler, c'est un petit peu ce qui s'est passé au sein du groupe Envie. C'est-à-dire que nous-mêmes, créateurs de ce groupe, le Queer Help renforçait encore cette image que c'est difficile de vivre avec la séropositivité, etc. Ce que l'on ne conteste pas. Oui, parfois c'est difficile, mais en même temps, lorsqu'on vit avec le VIH, on peut avoir une vie tout à fait normale, je dirais. Encore, je n'aime pas trop ce mot normal, je ne sais pas trop ce que c'est.
Mais en tout cas.
Tout à fait.
Avec une normalité.
Une
vie belle, dans un sens. Je ne sais pas, moi j'ai déjà eu l'occasion.
Une vie sans plus d'incidence.
Oui, voilà. Mais c'est
simplement sans plus d'incidence. La réalité de vie, c'est un cachet par jour et deux prises de sang par année. Donc c'est une réalité.
Il y en a qui prennent plus de cachet pour une grippe.
Il y en a qui prennent plus de cachet pour essayer de perdre du poids aussi.
Oui, c'est vrai.
Ou ils prendraient des produits pour éviter la chute de cheveux.
Ou pour avoir des érections. Enfin voilà.
Et donc, on parle de Queer Help, mais comment on est arrivé à Envie ?
Alors,
l'évolution ensuite.
David va nous aiguiller.
Queer Help, j'avoue qu'au courant d'une soirée, je me suis permis de relever que je trouvais relativement prétentieux de la part des institutions de s'imaginer qu'on ait besoin de leur aide. Ensuite, Envie est venue dans une suite de jeux de mots entre les différents participants où en fait... c'était envie de vie, envie d'avoir envie. Et puis, ouais, les gars, ce soir, moi aussi, j'ai envie.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est joli parce qu'en fait, on ne peut pas le voir à la radio, mais c'est aussi dans l'écriture qu'il est intéressant, ce mot envie.
Alors, savoir envie, E-N-V-I-H. Voilà. Effectivement, vous avez la symbolique du ruban rouge qui se détache, en fait. Quelque part, c'est aussi une manière pour nous de nous libérer de cette lutte contre le sida. De cette prévention par la peur, à défaut d'une prévention par l'éducation dont nous, personnes séropositives, sommes les dommages collatéraux. Comprenez bien qu'à chaque fois que je rencontre un partenaire, c'est à moi qu'il appartient d'aller le chercher en 1996 pour le ramener en 2016. Voilà.
Ça, c'est le. Justement, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. C'est tout ce problème de sérophobie. Donc, on est. La plupart des gens, ils sont quand même encore coincés dans ces années 80, en effet. Donc,
alors, j'attire peut-être ton attention sur la première des sérophobies contre laquelle nous avons à lutter, voilà. Contre laquelle nous souhaitons lutter auprès d'Envie, c'est celle qu'on intériorise dès les premières minutes suivent l'annonce de notre test.
Ça, c'était déjà un point important, j'ai l'impression.
Parce que comprenez bien que moi, dès que j'ai appris ma séropositivité le 9 mai 2009 à 17h30, juste pour situer, parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après, cette date restera fixée dans ma vie. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est le visage de l'acteur américain Tom Hanks dans les 10 dernières minutes du film Philadelphia. Ce film remonte de 1993. Ce qui veut dire qu'en 2009, ma représentation d'une personne séropositive datait de 1993. J'invite ici, j'aime bien faire ce petit quiz. Pouvez-vous me citer aujourd'hui une personnalité célèbre qui puisse être ma figure d'identification positive vivante?
Ouais, il faut chercher.
Alors comprenez bien que dans cette communauté, on a une Lady Gaga qui vient nous chanter Born This Way à nos oreilles quand on se découvre une personne homosexuelle. On a un président Obama qui vient vous dire It's get better sur Internet. Nous, quand on se découvre une personne séropositive, on est tout seul.
Ouais.
Moi, en 2009, dans mon entourage, je connaissais personne qui était porteur de ce virus. Je me suis retrouvé tout seul.
Et en plus de ça, on imagine que quand on apprend ça, il y aura de l'accompagnement, les gens seront là, mais en fait, c'est pas le cas.
Alors moi, ce que je me rappelle, c'est qu'en 2009, j'avais un médecin généraliste, j'avais un infectiologue, j'avais un psychiatre qui me suivait. Tout le monde a été unanime pour m'inviter à rentrer dans le silence, brandissant de vieux spectres éculés, en me disant de faire très attention pour ma carrière professionnelle, pour ma vie intime, pour ma vie avec mes proches. La première année, je l'ai vécu dans le cauchemar, dans une forme de paranoïa, la paranoïa de perte de possession de l'information. J'en étais au point de ne pas parler à certaines personnes parce que je les estimais pas suffisamment de confiance, alors que je les connaissais depuis plus de 15 ans. Ouais. Mais que je savais que le samedi soir, avec un coup dans l'aile, ils avaient souvent la mauvaise tendance d'ouvrir un petit peu trop leur bouche.
Ouais.
Et ça, c'est le genre de réalité. Il m'a fallu attendre une année la rencontre d'un père, une personne séropositive infectée depuis le début des années 90, qui lui m'a pas expliqué la théorie, lui m'a montré la pratique. Il m'a montré le quotidien de vie. De 20 ans de vie avec le VIH d'ailleurs.
Et effectivement, de tous les acteurs médicaux que j'avais autour de moi, ma figure d'identification positive, ça a été ce garçon. Et c'est lui qui m'a permis, et c'est grâce à lui d'ailleurs, si ce soir je suis devant vous en train de parler.
Ouais, bah d'où l'importance d'un groupe et de personnes qui puissent échanger, se rencontrer, d'où l'importance d'envie, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Et ce que j'ai envie de préciser aussi par rapport à ta question sur pourquoi on vit, comment on a changé, etc., c'est que le fait de trouver un autre nom, un autre déterminant pour ce groupe a complètement changé la vision que nous avions, parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces séminaires qu'on faisait dans le canton d'Appenzell, je crois, c'était essentiellement des professionnels de la santé comme moi, mm-hmm. ou d'autres ou du social qui donnait ces ateliers et qui partait de ce principe que la personne qui vit avec le VIH, elle doit entendre parler de l'effet des traitements, qu'elle sera angoissée, qu'elle aura de la peine à dormir.
Mais c'est très médical, etc. finalement.
C'était médical, justement. Et puis, le fait de donner ce nom en vie, ça change vraiment la donne, parce que ça n'empêche pas que ça puisse être médical par moment. D'ailleurs, nous avons invité prochainement un médecin qui va nous parler de l'effet des traitements, comment ils agissent, etc. C'est pas des sujets qu'on écarte, pas du tout, mais c'est de voir que il y a aussi autre chose qui est actif et qui comme je le disais tout à l'heure, est même pénible par rapport à la réalité de le VIH, c'est que les gens ont ces idées du passé, mm-hmm. et que l'idée, c'est vraiment envie de dire, mais nous allons rester en vie même avec le VIH. Si on a un diabète, par exemple, qui est aussi on va dire, c'est pas une infection, c'est une maladie chronique. C'est aussi une maladie avec laquelle on reste en vie si on prend des médicaments, etc., etc. Donc, il y a, elles sont pas sur le même registre. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a toute une stigmatisation déjà qui est en lien avec, on pourrait le dire, hein, l'homosexualité, nos pratiques sexuelles, etc., etc. Et ce fait qu'il y a comme une espèce de jugement. Voilà ce que je pense, mm-hmm. profondément. Oui.
Mais il y a quelque chose que je vais peut-être poser une question.
Allez,
vraiment,
vas-y.
manière totalement un peu décalée. On parle là vraiment d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des personnes trans. Ça veut dire que il y a d'autres choses qui sont mises en place pour les personnes hétérosexuelles, par exemple, mais il n'y avait rien pour les personnes qui ont des rapports, enfin des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et des personnes trans, ou bien les personnes qui ont des rapports sexuels avec des hommes sont délaissées, c'est ça ? Enfin, des hommes qui ont...
Alors, si j'ai bien compris ta question, il y a d'autres espaces comme SIDAction, par exemple, voilà. ou d'autres organismes qui suivent, qui organisent des choses pour les personnes séropositives. Mais encore une fois, il y avait le groupe SIDA Genève, hein, qui accueillait ces personnes séropositives. HSH, hommes qui pratiquent le sexe avec des hommes et trans. Et puis, à Lausanne, pour le Jura, pour Fribourg, pour Neuchâtel et le Valais, il n'y avait rien. Voilà.
Okay. Mais il n'y a pas de super groupe, super association qui regroupe vraiment tous les séropositifs. Enfin, j'imagine, de toute façon, les préoccupations ne sont pas les mêmes, de toute façon.
Non, pas pour l'instant, en tout cas, ça n'existe mm-hmm. pas.
D'accord, très bien. On va donc reparler encore d'ici quelques instants du groupe Envie. On va parler vraiment plus précisément et concrètement de comment ça se passe dans ce projet Envie. On va aussi retrouver Paul, parce que Paul ne va pas pouvoir rester très longtemps avec nous.
Malheureusement.
Donc je pense que tu vas nous poser ta question, si on est queer, d'ici quelques minutes,
oui.
juste après un peu de musique.
Après un peu de musique, qu'est-ce que tu nous mets comme musique ?
Je vais mettre MGMT, si vous êtes d'accord.
Ah, toujours des noms de
choses d'artistes. De toute manière, le programmateur, il a mis ça.
Voilà, le programmateur a mis ça, c'est parti, on est obligé d'écouter ça.
Alors on y va.
Allez, MGMT Kids sur Vibration Gay Radio.
X sur Vibration Gay Radio.
Vibration Gay Radio, c'était Mike Perry à l'instant avec The Ocean. Nous sommes dans cette émission Chromosome X avec le projet Envie. On va en parler encore d'ici quelques instants. On a encore pas mal de choses à aborder. Mais avant cela, il y a Paul qui va devoir nous quitter dans pas longtemps. Donc il va quand même nous poser cette fameuse question juste avant.
Voilà, êtes-vous queer ?
Ouais. À laquelle on répond jamais. Hein,
personne
ne répond.
Répondez
pas.
Quoique, non, sur les dernières émissions, j'ai eu quelques réponses.
Oui, t'as eu quelques réponses.
C'était cool, ouais.
On les avait pas briefés avant.
J'avais invité des gens carrément qui répondent voilà. Oui. D'entrée de jeu, c'était plus facile.
Non, là, ouais, je vais vous parler ce mois-ci, donc ce sera pas un artiste, mais je vais vous parler de Pornceptual, donc qui est un.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, qu'est-ce que c'est Pornceptual ?
Déjà, quand tu parles de Pornceptual, c'est assez conceptuel.
Voilà, ouais, on pourrait arriver du coup ouais, à une espèce d'entre-deux, entre porno conceptuel. Là que
moi, ça me fait plutôt passer un nom de dessert, mais.
Oui, tu peux. Un nom de dessert.
De dessert. Mais ça, c'est mon esprit c'est... féminin, un peu plus
voilà.
Cake. Corne, tu vois.
Alors ouais, c'est. La base, c'est un site internet où tu ne trouveras pas de recette de cuisine, Fanny, pour faire tes desserts. Mais, effectivement, c'est. Alors, ils ont construit ça à la base comme une plateforme, une espèce de galerie en ligne. Peu d'exposition pour des artistes qui auraient eu envie de répondre à une espèce de formule qui était l'art peut-il réussir là où le porno a échoué en fait. Mm-hmm. En prenant comme base et comme acquis que finalement le porno aujourd'hui est devenu un espèce de produit qui répond aux envies d'un consommateur. Donc sans qu'il y ait plus véritablement de création mais simplement une réponse à un besoin d'un consommateur, donc qui voilà, on consomme le porno comme tout un autre produit, voilà, et donc un groupe d'artistes s'est posé la question de savoir, mais en fait, est-ce que le porno, qui est à l'origine plutôt une section artistique,
okay,
clairement, enfin dans le cinéma, il faut aller fouiller un petit peu dans les années 60, 70, voir ce qu'était le porno. C'était des films à grand budget, enfin des choses qui sortaient en salle de mm-hmm. cinéma, alors qui étaient sur un public restreint, mais qui étaient programmé dans les cinémas comme les autres, et de s'apercevoir qu'aujourd'hui ben c'était fini, que c'était devenu voilà un produit de consommation courante qu'on trouve en plus maintenant sur internet, donc à une vitesse folle. Et donc ces artistes se sont dit, ok, est-ce qu'on peut arriver à faire ce que le porno finalement a raté, c'est-à-dire à travers l'art, à travers une expression artistique, susciter une émotion à travers le désir sexuel et les plaisirs de la chair. Et ils ont fondé donc ce concept de Pornceptual, donc qui est à la base un site internet qui ensuite s'est développé sous différents autres formats. Alors le site internet a évolué d'abord en regroupant effectivement beaucoup d'artistes qui ont voulu s'exprimer à travers ça, de se dire ok, on va essayer d'explorer la pornographie comme une forme.
C'est un bon défi pour un artiste
artistique.
Ouais.
C'est un très très bon travail. Il y a de grands photographes, de grands vidéastes qui ont participé à ce projet en allant chercher effectivement des représentations pornographiques des êtres humains pour susciter leur désir. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet-là, et qui l'amène effectivement dans ce qu'on peut amener dans le milieu queer, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune section dans le site. Il n'y a pas de question de genre ou de sexualité ou okay. de sexe à l'intérieur. On parle à des êtres humains sexués avec des désirs et tous autant qu'ils sont. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de séparation. On n'est pas dans un rayon de supermarché où tu veux ton produit à la fraise et pas à la pêche, donc tu regardes la section dans le rayon où il y a les fraises et pas la pêche au niveau mm-hmm. des yaourts. Non, là du coup non, tout est mélangé. On parle simplement à des êtres humains et à la sexualité simplement. Et donc du coup là, pour moi, il y a un vrai défi que je trouve très intéressant dans ce projet. Et donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur ce site internet pour découvrir les différentes collections de photos et de vidéos proposées par des artistes. C'est du porno de très très bonne qualité, donc voilà.
Okay.
Du porno de luxe, je vous invite à aller voir.
Juste dire sur le principe, je suis intéressé d'en dire deux mots, parce que il me semble qu'il y a quelques centaines d'années, il y a déjà des personnages qui avaient compris ça. Je pense au Marquis de Sade, par exemple.
Oui, non, mais complètement.
Des sectes. Je pense à des poètes comme Apollinaire, par exemple, les 100 000 vers, c'est pas rien. Hein. Ouais. Ou d'autres au cinéma, comme Pasolini, par exemple.
Bien sûr.
Ou Fellini, ou etc. etc. Ouais. Voilà, moi je me souviens que je me masturbais en lisant André Gide, parce que il n'y avait pas l'accès à la pornographie. C'est comme, ça. Et comme là, elle existe aujourd'hui.
Et là, ils essayent de ramener un petit peu de ce côté-là aussi, et finalement, susciter le désir et nous faire sortir aussi des cadres surtout, je pense, notre génération à nous, les trentenaires, on a vu l'émergence d'Internet, on a eu tout d'un coup l'accès à tout, on a une idée dans notre tête de quelque chose qu'on a envie de voir. Aujourd'hui, on le tape, on le voit. Et
ouais, puis, c'est un peu le souci, c'est de pouvoir taper quelque consomme. Chose à voir. Ouais, c'est
là,
ça.
Non, là,
t'as
c'est les artistes.
L'imagination, finalement.
Voilà, et puis t'as plus la surprise aussi. D'être excité par quelque chose à laquelle tu t'attends pas d'être excité, quoi. Et là, donc, du coup, c'est vraiment ce travail-là qui est amené par ces artistes. Et donc, effectivement, avec des représentations sexuelles auxquelles on s'attend pas.
C'est peut-être un des risques que je vois quand on parle de consommation. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait que le plus excitant quand on va retrouver, alors il parlait de sa maîtresse, moi je dirais son amant, c'est quand on monte l'escalier. C'est-à-dire que lorsque on clique sur un truc porno sur Internet, c'est vrai qu'on est tout de suite dedans.
Ouais,
quoi.
Mais l'escalier est court.
L'escalier est
plus
large.
T'as pas le temps de te mettre en jambes.
L'escalier est plus large.
C'est ça, clairement. Et donc ensuite le projet s'est développé donc sous différents formats. Donc déjà après, ils ont ouvert une section qui ouvre à tout un chacun en fait à créer son porno. c'est-à-dire aussi proposer sa propre représentation de la pornographie, donc d'objets artistiques suscitant justement ce désir sexuel, donc qui est ouvert à tout le monde. Alors il y a la section générale qui est vraiment celle d'une sélection d'artistes de travail dirigé, une section du coup qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait voir un peu plus comme amateur, mais qui ne l'est pas, qui est simplement un lieu où finalement les gens viennent s'exprimer artistiquement autour de la pornographie. Donc qui est aussi très très intéressante, ou avec des choses très très surprenantes et toujours très belles, et puis très ça secoue vraiment quoi. Et ils ont ensuite développé un magazine papier, donc qui est disponible sur leur site internet aussi, du coup d'avoir un autre support d'accès que l'écran à cette représentation pornographique. Et ensuite ils organisent aussi un peu partout en Europe des soirées Pornceptual. Donc, okay. Qui sont des soirées effectivement très très légères, on va dire, et puis où justement les gens viennent là avec comme ils sont, avec leur sexualité, mais pour se laisser surprendre aussi par d'autres choses. Et justement, c'est des soirées qui, pareil.
Mais c'est
qui
donc tout milieu confondu.
Il y a pas, voilà, à partir du moment où on est sur ce projet-là, c'est vrai qu'on ne parle plus de sexe, de genre, de sexualité, voilà. De quoi que ce soit, de fétichisme,
on parle de plaisir,
il y a plus de code, il y a plus rien du tout, il y a plus que finalement les corps, la chair, l'autre qui compte pour parler de sexe ou le pratiquer clairement dans ces soirées-là qui sont organisées.
J'allais te poser la question justement, ouais. Comment ça se passe ces soirées, tu sais ?
Alors j'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller, j'aimerais bien parce que je trouve il y a des très très, bien sûr du coup il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont sur ces soirées-là, donc il y a énormément de photos, de vidéos qui sont faites aussi pendant ces soirées-là et qui sont très intéressantes parce qu'on voit justement aussi d'autres choses, on voit les représentations de couples ou de... Enfin, il y a plus, on perd vraiment tous les codes qu'on a et ça permet vraiment d'ouvrir un tout petit peu plus grand.
Ça j'aime bien cette idée
esprit.
De qu'on oublie les sections, enfin le genre et voilà.
Mais c'est, ouais, c'est moi, humain. J'ai un peu connu ça à Berlin à une époque où il y avait les premières soirées drag king qui se faisaient. Ça, il faudra que je vous en parle un jour des drag king. Parce que ça c'est un truc absolument incroyable. Donc des femmes qui se travestissent en hommes et bien sûr dans des cabarets à Berlin où finalement dans la soirée impossible de savoir. Tu te retrouvais assis à côté de quelqu'un, mais tu pouvais pas savoir son sexe, son genre, sa sexualité. C'était un Bronx énorme. Et forcément, comme c'est un cabaret, c'est un lieu de drague. Donc, dès que tu rencontres quelqu'un, t'es directement un peu dans la séduction, mais tu sais absolument pas du tout si la personne correspond à ton désir primaire au départ, quoi. Donc, du coup, si tu commences à draguer et que le courant passe, finalement, tu te retrouves avec une personne et puis plus avec... avec une représentation sexuée comme on aime bien l'avoir dans notre société, toujours être bien rangé quoi. Et c'est vrai que ça amène à beaucoup de surprises et puis c'est bien les surprises, enfin moi j'aime bien les surprises. Donc voilà, donc c'était ma petite
Merci.
Intervention, donc je vous laisse aller faire un petit tour sur Pornceptual et puis essayer de vous sentir un peu plus queer dans votre vie sexuelle et
vous essayez d'enfin répondre à ta question,
vous sortir de Pornhub, Xtube et tout ça,
s'il vous plaît, oui.
Et découvrir Merci. Un peu d'autres aventures.
Voilà. Du coup, tu nous as prévu une petite.
Ouais,
un petit
je vous ai
titre.
Prévu un petit peu de musique pour clore cette chronique. Êtes-vous queer ? Je pense que ça va devenir le petit générique.
Ouais.
Êtes-vous queer ?
Elle est bien.
C'est queer de Garbage.
Ah bien. Ouais.
Ah ouais.
Voilà.
Joli.
Bien.
Comme ça. Et puis.
Merci Paul.
Et je vous en prie.
À bientôt.
À Merci. Plus.
Ciao.
Et voici Garbage sur Vibration Gay Radio.
100% friendly, vibration Gay Radio.
Smell your intentions. You love another. on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't.